Rouge.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous. Comme tous les matins, nous sommes le mardi 31 décembre 2024. Ravi de vous retrouver ce matin, 452e jour de guerre en Israël, toujours sans otage dans la bande de Gaza.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. Hier, on a appris la mort d'un soldat dans la bande de Gaza.
Oui, Boker Tov, Ilana, il s'agit du sergent Uriel Peretz, 23 ans, originaire de Betar Elit, combattant dans la brigade Kfir du bataillon Netzar Yehuda. Trois autres combattants de son unité ont été gravement blessés lors de l'affrontement où Uriel Zechrono Livracha a été tué.
Et on connaît à présent les circonstances de la mort de Yuval Shoham, le soldat qui est tombé dimanche dans la bande de Gaza.
Oui, les parents de Yuval Shoham, le sergent chef tombé dans le nord de la bande de Gaza dimanche, ont révélé qu'il avait été tué après avoir été percuté par la tourette d'un tank de Tsahal. Hier, alors qu'il se promenait dans le sud du pays, les parents de Yuval ont décidé de faire un détour par la base où leur fils se trouvait pour lui apporter des paquets. Mais en arrivant sur place, ils ont appris la terrible nouvelle. Quelques heures plus tôt, Yuval leur avait envoyé un message exprimant toute sa joie à l'idée de les revoir.
Les sirènes ont par ailleurs retenti à plusieurs reprises hier en bordure de la bande de Gaza.
Oui, hier vers 18h, une roquette tirée depuis la bande de Gaza est tombée dans une zone inhabitée. Et puis un peu plus tôt dans la journée, un autre tir de roquette a échoué. La roquette tombée dans la bande de Gaza. Les sirènes ont retenti à Niram, en bordure donc de la bande de Gaza. Et puis hier, un peu avant minuit, les sirènes ont aussi retenti dans le centre du pays une nouvelle fois. Cette fois à cause d'un missile tiré depuis le Yémen qui a été intercepté avant d'atteindre le territoire israélien.
Sur la scène politique, les orthodoxes durcissent le ton et menacent de ne pas voter pour le budget 2025.
Oui, les partis ultra-orthodoxes exercent une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il présente immédiatement un texte de la loi sur la conscription des étudiants en yeshiva avant l'approbation du budget. Ils menacent de ne pas soutenir le budget si leurs exigences ne sont pas satisfaites. Et puis le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, cherche lui à régler un autre conflit, celui avec Itamar Ben-Gvir, pour éviter de devoir accorder des fonds supplémentaires au ministre de la Sécurité nationale. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé un document signé par le secrétaire du gouvernement qui lui garantissait une rallonge de 850 millions de shekels pour la police. De plus, le président de la Commission des affaires étrangères et de la défense, Yulian Edelstein, a déclaré qu'il n'accepterait qu'une loi de conscription authentique rejetant donc toute forme d'exemption généralisée. Une situation donc très complexe qui met la stabilité du gouvernement en danger.
Pendant ce temps, le Premier ministre continue, lui, de se remettre de son opération de la prostate.
Et le professeur Ofer Gofrit, le directeur du département d'urologie de l'hôpital Hadassa En Kerem, qui a donc pratiqué l'intervention, a déclaré que l'opération s'était déroulée comme prévu, que l'état du Premier ministre était bon. Il a affirmé qu'il n'y a aucun soupçon de tumeur ni de cancer. Et puis, dès la fin de l'intervention, Benjamin Netanyahu a été transporté dans une chambre protégée en sous-sol de l'hôpital. Il sera hospitalisé encore pendant quelques jours.
Une nouvelle étape pour le plus grand projet de transport en commun en Israël.
Oui, le projet du métro du Grand Tel Aviv a franchi une étape clé avec l'approbation du dernier segment, le segment M1 Nord, par la Commission des infrastructures nationales. Ce projet est le plus grand, le plus coûteux de l'histoire d'Israël. Il prévoit la construction de 150 km de voies souterraines reliant 24 municipalités comprenant 109 stations. Les travaux détaillés vont maintenant donc commencer, mais selon les estimations, les premières lignes seront opérationnelles qu'à partir de 2035, voire 2040. Et le coût total de ce projet est estimé entre 150 milliards et 200 milliards de shekels.
Et puis enfin, pour terminer, elle s'est fait attendre, mais elle est enfin là. La pluie est arrivée en Israël.
La pluie est là et le mois de décembre qui s'annonçait comme l'un des plus secs des dernières années se termine par des pluies intenses qui ont largement dépassé les moyennes saisonnières dans plusieurs régions, à Ercilia et Ramat HaSharon. On a enregistré jusqu'à 60 mm en 24 heures, provoquant des inondations. À Khadera, un sans-abri d'une cinquantaine d'années est décédé d'une hypothermie. Et puis des interventions ont eu lieu aussi à Tel Aviv, Hod HaSharon et Kfar Saba pour des véhicules coincés et des habitations inondée, Ilana.
Merci beaucoup Olivier Granelli, qu'on vous retrouve tout à l'heure dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. La météo de ce mardi matin, le temps est calme mais gris et brumeux sur les trois quarts de l'Hexagone. Attention au brouillard givrant des plaines d'Aquitaine au Lyonnais jusqu'au Grand Est. Le soleil en revanche brille en montagne et dans l'après-midi, temps assez similaire, assez calme. Beaucoup de grisailles, comptez 5 degrés seulement en Ile-de-France, 12 à Marseille, 9 à Biarritz et puis en Israël. Il pleut de Jérusalem à Metoula, 10 degrés dans la capitale israélienne, 16 à Tel Aviv, de la pluie également là-bas. En revanche, du soleil à la mer Morte avec 19 degrés.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
L'heure est au bilan, vous le savez, depuis quelques jours maintenant. Israël qui marque un tournant historique, le pays qui vient de dépasser les 10 millions d'habitants. Cette statistique issue de l'étude démographique annuelle reflète bien plus qu'un simple chiffre. Dans un monde où des pays développés peinent à maintenir leur population, eh bien Israël se démarque avec une natalité record et une immigration soutenue. Alors quels sont les ressorts de cette croissance et les défis qu'elle pose à la société israélienne? Décryptage de cette dynamique qui façonne le futur de l'État juif avec vous, Eva Soto.
En effet, avec un taux de croissance annuel de 1,9%, Israël se distingue par une augmentation significative de sa population. Cette progression est alimentée par un taux de fécondité élevé, atteignant 2,89 enfants par femme, bien au-dessus de la moyenne des pays occidentaux, souvent inférieure à 2 enfants. Même dans des villes modernes et laïques comme Tel Aviv, ce taux reste de 2 enfants par femme, dépassant celui de toutes les capitales européennes.
Et ce cap des 10 millions, bien plus qu'un chiffre rond, en réalité, révèle une dynamique exceptionnelle dans un contexte mondial marqué par le vieillissement, on l'a dit, par la décroissance des populations dans les pays développés. À l'heure où l'Europe et l'Occident s'interrogent sur le vieillissement de sa population, Israël se distingue donc par des politiques publiques aussi particulièrement favorables, ça il faut le dire, à la natalité.
En effet, le pays offre un accès universel à la PMA, procréation médicalement assistée, financée par le système de santé public jusqu'à la naissance de 2 enfants. Cette approche médicale, rare à l'échelle mondiale, reflète l'importance accordée à la famille dans la société israélienne. De plus, depuis janvier 2022, la GPA, gestation pour autrui, est accessible à tous les résidents israéliens, y compris les couples homosexuels et les personnes célibataires, élargissant ainsi les possibilités de parentalité.
Et enfin, le gouvernement israélien met en place des mesures pour alléger les frais liés à l'éducation des jeunes enfants, par exemple un plan gouvernemental qui vise à réduire les coûts des parents d'enfants en bas âge, témoignant de l'engagement des autorités à soutenir les familles.
Oui, des politiques combinées à une culture valorisant la famille contribuent à maintenir un taux de natalité élevé en Israël, contrastant avec les tendances observées dans de nombreux autres pays développés.
Et il faut aussi préciser que l'immigration constante joue un rôle central dans cette démographie israélienne, contribuant à sa diversité culturelle, à son développement économique. Depuis sa fondation, Israël, Eva, a accueilli 3,46 millions d'immigrants, dont près de la moitié après 1990.
Ces vagues migratoires motivées par des raisons politiques, économiques ou religieuses sont un pilier de la démographie israélienne. Les pics les plus notables ont eu lieu en 1949 et en 1990, avec des centaines de milliers de nouveaux arrivants. Aujourd'hui encore, l'Alia reste une priorité pour les autorités israéliennes. Elle contribue non seulement à la croissance démographique, mais également à renforcer le tissu social et économique du pays. Cependant, cette immigration soulève des défis d'intégration d'intégration et d'équilibre entre les différentes communautés, notamment dans les grandes villes.
Justement, la population israélienne est majoritairement concentrée dans la métropole de Tel Aviv, hein, qui abrite 40% des habitants. Cette densité urbaine pose des défis en matière d'infrastructures, de logements et de services publics, ce qui nécessite des politiques adaptées pour assurer une qualité de vie optimale.
Et les estimations indiquent qu'Israël pourrait atteindre une population de 16 millions d'habitants d'ici 2050. Cette croissance rapide soulève des questions sur la durabilité des ressources, la planification urbaine et l'intégration sociale. Les autorités devront anticiper ces défis pour maintenir l'équilibre entre développement et qualité de vie.
Un autre aspect marquant de cette étude, c'est aussi l'évolution de la communauté orthodoxe qui représente aujourd'hui 12,5% de la population israélienne, soit environ 1,26 million de personnes, alors que la communauté Haredi était historiquement associée à des taux de natalité très élevés. Ces derniers connaissent apparemment une baisse significative, atteignant 6,1 enfants par femme en moyenne, leur niveau le plus bas en 43 ans.
Les pressions économiques, le coût de la vie et la digitalisation progressive de cette société contribuent à ces changements. Par exemple, 71% des Haredim utilisent désormais Internet, contre seulement 39% en 2014. Ces évolutions traduisent une adaptation progressive aux réalités modernes, bien que cette communauté reste attachée à ses valeurs traditionnelles.
En tout cas, cette croissance, on l'a dit, est inédite pour un pays développé. Israël dépasse désormais des pays comme l'Autriche, la Suisse ou la Hongrie en termes de population et se rapproche de nations telles que la Suède ou la Belgique. Une progression qui renforce son poids, en tout cas sur la scène internationale, on l'espère, tout en posant des défis internes. On en a parlé, hein, liés à la gestion de cette population en pleine expansion. Merci beaucoup, Eva Soto. Vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure à 7h15 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et oui, bilan de l'année 2024. Et pour faire le bilan du meilleur et du pire de cette année, nous sommes avec Karen Noblinski. Bonjour Karen.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous. Alors effectivement, vous souhaitiez revenir ce matin sur l'ensemble de ce qui s'est passé finalement ces derniers mois.
Oui, l'année 2024, ce fut une année riche en actualités, en souvenirs douloureux, en espoir parfois et en détresse souvent. Tout d'abord, c'est une année sous le signe de la libération de la parole des femmes, avec la parole forte de Judith Godrej, puis celle d'Adèle Haenel, plus récemment lors de son procès. C'est une année aussi sous le signe judiciaire, on l'a vu avec 3 mois de procès pour l'affaire Mazan. Soulignons que hier, on a appris que 17 des accusés avaient interjeté appel et qu'un nouveau procès serait organisé à la fin de l'année 2025. Le procès Mazan, ce n'est pas rien, c'est un véritable avant, après, on l'espère, dans la sensibilisation que ce procès aura apporté sur la scène publique, sur ce que sont les violences sexuelles, sur ce qu'est la soumission chimique, avec un travail incroyable qui est réalisé par l'association Mandorpa. Alors, on parle souvent de, est-ce qu'il y aura un avant-après procès Mazan? Je pense qu'il nous appartient, à nous, société française, de créer cet avant-après et de continuer finalement à en parler, de ne pas se servir simplement de ce procès pour le faire. 2024, c'est aussi le cri assourdissant, le courage des femmes iraniennes qui ne cessent de revendiquer leurs droits, qui tentent de survivre. 2024, c'est aussi l'inscription de l'avortement dans la Constitution en France en mars 2024. Ce scellement qui avait été réalisé au château de Versailles, un moment historique dans un monde où partout, notamment en Europe, les droits des femmes reculent jour après jour. 2024, c'est encore toujours, il faut le rappeler, 1 enfant sur 10 qui est harcelé à l'école. C'est aussi une femme sur 10 atteinte d'endométriose à qui on ne dit finalement que très peu de choses encore en 2024. 2024, c'est aussi un pays face à son instabilité politique. 2024, c'est aussi l'antisémitisme qui explose dans nos rues, sur les réseaux sociaux. C'est un monde qui est en train de se diviser et qu'on doit unir et rattraper. 2024, c'est la montée en puissance du RN, mais c'est aussi Trump qui revient au procès. 2024, c'est aussi cette image de Léon Leibovitch qui est survivant des camps de concentration et qui portait la flamme dans les rues de Paris. C'est le retour de Notre-Dame. C'est la guerre qui se poursuit. C'est des pertes effroyables des otages dont on prie pour le retour. 2024 s'achève et 2025 devra être placé sous le signe de l'espoir et de la paix, Ilana.
Et cette année se clôture aussi avec le rapport du ministère de la Santé bientôt déposé à l'ONU.
Oui, un rapport du ministère de la Santé israélien qui décrit les violences sexuelles subies à Gaza par les otages libérés en novembre 2023. Des coups, des blessures, des brûlures, des violences sexuelles, des témoignages recueillis par les autorités qui détaillent ces conditions de détention dans la bande de Gaza. C'est un document qui se base sur des témoignages dont on avait déjà entendu parler, qui ne sont pas nouveaux, mais qui viennent se cristalliser dans ce document-là qui sera remis au rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Alice Jill Edward, et qui a été fait savoir par un communiqué de presse par le ministère israélien de la Santé. Un des otages libérés raconte avoir été abusé sexuellement par un terroriste du Hamas sous la contrainte d'une arme, peut-on lire dans le rapport. Et certaines femmes ont témoigné avoir été attachées à des lits pendant que les ravisseurs les regardaient. On peut aussi lire que certaines ont été abusées, à qui on a demandé de se déshabiller. Et ce rapport, il doit alarmer une fois pour toute la scène internationale sur le traitement vécu par les otages.
Alors très rapidement, en quelques secondes, quelles sont les perspectives pour 2025? Qu'est-ce qu'on attend pour la suite?
Qu'est-ce qu'on attend de ce rapport précisément? On attend une réaction qui ne soit pas seulement nationale, mais bien internationale. On attend que, effectivement, une fois pour toutes, ces éléments soient constatés, approfondis et que les enquêtes puissent se poursuivre.
Merci beaucoup Karen Oblinski, merci d'avoir été avec nous. Un bilan de l'année 2024, on vous retrouve avec grand plaisir en 2025. Bonne année à
vous. Bonne année Ilana.
Et à bientôt.
Merci.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
7h15, l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Un nouveau soldat israélien tué dans la bande de Gaza, le sergent Uriel Peretz de Betar Ilit. Il faisait partie de la brigade Kfir, il n'avait que 23 ans, 8 autres ont été blessés en même temps que lui. Il se trouvait dans un bâtiment de Beit Hanoun et ont été touchés par des tirs anti-chars. Nouvelle attaque en provenance du Yémen dans la nuit. Tsahal a intercepté un missile balistique tiré par les Houthis. Les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le centre d'Israël, notamment à Tel Aviv. Les autorités ont appelé les habitants à rester à proximité des abris et demandent de signaler immédiatement toute découverte suspecte, notamment des chutes de débris de missiles. Plus tôt dans la soirée, les États-Unis, eux, ont frappé des cibles houthies au Yémen, dans le sud de Hodeïda. Des terroristes posent des bombes à proximité d'un hôpital dans la bande de Gaza. Ce sont les images diffusées par Tsahal hier, images obtenues à partir de caméras appartenant à des membres du Hamas. L'armée israélienne a intercepté hier 2 roquettes lancées contre le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. Par ailleurs, le pillage d'un convoi du programme alimentaire mondial à Gaza a fait 2 morts hier. Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense sont au Liban. Un mois après la trêve entre Israël et le Hezbollah, Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Aoun, pressenti comme candidat potentiel à la présidence libanaise. Et puis, pour finir, François Bayrou et plusieurs membres de son gouvernement à Mayotte pour panser les plaies du cyclone Chido. Le Premier ministre a révélé hier soir le plan Mayotte debout. Il a annoncé la présentation le 3 janvier d'un projet de loi d'urgence. L'État s'engage aussi à empêcher la reconstruction des bidonvilles et à garantir l'accès à l'électricité.
Merci beaucoup Eva Soto. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 8h, 7h30. N'oubliez pas la revue de la presse israélienne.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et vous restez avec nous, les amis, ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, nous allons parler d'une association très active et depuis plusieurs années maintenant, le Gmar Pantin, est issu du Beit Rabat de Pantin, avec notamment sa présidente, sa responsable, Rivka Balouka, qui sera avec nous en studio dans quelques minutes. Et oui, on fait des bilans aussi de l'année 2024, bilan économique, Karen en a parlé aussi, le bilan politique de cette année. Et en 2024, il y a plusieurs personnalités marquantes qui nous ont quittés, qui ont laissé une empreinte profonde dans leur domaine respectif. Et c'était aussi l'occasion pour nous de rappeler leur mémoire ce matin. Robert Badinter, ancien ministre, défenseur des droits humains, s'est éteint, notamment en 2024, laissant un héritage inestimable dans la lutte contre la peine de mort. La chanteuse Françoise Hardy, également symbole de la musique pop française des années 60, qui nous a quittés cette année. Le comédien et réalisateur qu'on aimait beaucoup, Michel Blanc, connu pour ses rôles dans des comédies populaires, qui a laissé un grand vide désormais dans le cinéma français. Et puis évidemment, parmi les personnalités engagées, Gilles Taïeb, militant contre l'antisémitisme qui a marqué l'année. On pense très fort à sa femme Karen ce matin. Madeleine Riffaut, figure de la résistance, journaliste, elle a aussi disparu cette année 2024. Et puis enfin, entre autres, la légende du cinéma français, Alain Delon, acteur emblématique pendant plusieurs décennies, qui a également tiré sa révérence. Des personnalités qui ont marqué la culture française et donc leur disparition qui laisse un grand vide. Vous restez avec nous sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravi de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.
Allô Alia ?
Allô Alia, le centre d'appel gratuit pour obtenir toutes les réponses concernant la préparation de votre Alia et votre intégration en Israël. Allô Alia, besoin d'infos sur vos droits, l'emploi, le système de santé, les retraites, l'éducation, l'université, l'armée, la reconnaissance des diplômes, les cours d'hébreu ou encore les réseaux d'entraide.
Allô Alia ?
Allô Alia, 0805 031 550, un numéro vert à votre écoute. Allô Alia, service en français, 100% gratuit. 0805 031 550.
Appelez-nous.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Efshe Alev Niftar.
Ensemble ce matin sur Radio J. Et oui, parce qu'on va mettre en lumière une initiative, une association extraordinaire portée par des valeurs d'entraide, de solidarité, de générosité. Le Gmar de Pantin, issu du Beth Rabat de la ville, véritable pilier pour les personnes en difficulté en Seine-Saint-Denis, dirigé par le Rav Menachem Mendel Balouka et son épouse Rivka. Cette structure offre une aide concrète grâce à des dons variés, des meubles, des vêtements, de la nourriture et bien plus encore. Et nous avons le plaisir d'accueillir Rivka Balouka ce matin dans nos studios. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation matinale sur Radio J. Alors, ça fait longtemps, moi, personnellement, que je suis votre travail, puisque vous êtes souvent la personne et l'association qu'on cite dans les commentaires sur Facebook et sur les réseaux sociaux quand on cherche à donner quelque chose, quand on cherche à donner des vêtements, notamment. Vous jouez un rôle essentiel, allons même, d'ailleurs, on va en parler, jusqu'à offrir des robes de mariée à des femmes dans le besoin. Alors d'abord, comment et quand est né le Gmar de Pantin? D'ailleurs, qu'est-ce que signifie ce mot et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette aventure?
D'accord, donc déjà, le Gmar de Pantin signifie Gmar Gmilut Hasadim, association de bonté et de bienfaisance. Et comment cette envie est venue? C'est que déjà, depuis toujours, j'ai adoré aider, rendre heureuses les personnes autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a eu des éléments déclencheurs. C'est quand j'étais jeune, en 2000, il y a 20 ans, 23 ans exactement. Bon voilà, faut faire le calcul.
Vous faites très jeune.
Voilà, très jeune. Du coup, on a vécu. J'habitais à Orly et à minuit et demi, on a eu des jeunes qui ont menacé mon frère. On va vous brûler vif. Et des jeunes donc de confession d'une autre religion quoi. Il y avait une mosquée islamiste qui commençait à se développer dans notre ville. Et à minuit et demi, ils commencent à lancer une cocktail Molotov, du feu pour nous brûler vif quoi. Et moi, j'étais en train de réviser mon bac. Je suis partie avec des couvertures pour éteindre le feu, surtout ne pas réveiller mon père et essayer de laisser mes frères et sœurs dormir. Et déjà, cet événement, ça m'a beaucoup ébranlée. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Ne pas tomber dans la peur, mais utiliser cette rage finalement pour transmettre et pour éteindre un autre sort de feu. Je sais pas, ouais, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Je me suis dit, il y a le feu finalement de l'exil, il y a le feu de la misère, il y a le feu de la haine, et ben moi je vais essayer d'éteindre le feu de cette obscurité quoi. Et c'est aussi le message de Hanouka, puisqu'on dit qu'on rajoute une lumière chaque soir pour au contraire rajouter de la lumière quand il y a une obscurité. Et ça a été un petit peu vraiment le début de ce combat là. Deux semaines après, encore une fois, 50 jeunes au bout de ma rue, qui lançait des cailloux morts aux juifs pour faire en sorte que notre camion réfrigéré brûle. Et moi, j'étais seule chez moi, sans téléphone, et le voisin qui était un voisin à nous, qui était prêtre, il sonne à l'interphone, il me dit « Rivka, viens, je te protège, c'est dangereux, j'ai peur pour toi ». Je lui ai dit « Non, vous inquiétez pas, moi je vais nulle part, je reste chez moi ». J'ai pris HM, quoi, et je me suis dit « Mais deux événements comme ça, alors que j'avais à peine 17 ans ».
Oui.
Je vais l'utiliser à fond. Et dès que j'aurai la force de me relever, bah, j'en ferai quelque chose. Cette rage-là à l'intérieur de moi, Voilà, du coup, j'ai essayé de la transmettre un maximum avec ce Gmar de Pantin. Du coup, je l'ai créé il y a 13 ans maintenant. Donc, Gmar, ça veut dire association de bienfaisance. Aider toute personne dans le besoin, que ça soit une aide matérielle, donc avec du mobilier, des bons alimentaires.
Alors, on va en parler justement. Une rage qui s'est transformée en force. Et votre témoignage est très puissant, hein, Rivka, c'est vrai. Aujourd'hui, les missions que vous avez données sont variées. Donc, la plus importante, c'est peut-être laquelle c'est l'épicerie d'abord, c'est la nourriture.
Honnêtement,
c'est quoi ?
Toutes. Parce qu'il y a aussi même des cours de Torah de partout. Pas seulement à Pantin. Aujourd'hui, maintenant, je me déplace de partout.
Est-ce que vous donnez des cours pour les femmes, notamment, c'est ça?
Des cours pour les femmes, notamment. Préparation au mariage, le matin, de 8h du matin à 10h du matin pour les plus motivées. Elles se déplacent jusqu'à Pantin ou en visio. Et le soir, je me déplace dans les communautés qui m'invitent pour donner des conférences et essayer d'encourager les femmes à se rapprocher d'HM et à révéler leur lumière intérieure, en fait. C'est vraiment mon but dans la vie, révéler la lumière intérieure de chacune.
Alors, je parle de l'épicerie solidaire parce que vous avez notamment lancé la fameuse cantine cachère pour les écoles du 93, hein, c'est ça?
D'accord, ok. Alors oui, effectivement, ça fait 12 ans maintenant qu'on a créé cette cantine cachère du 9-3.
Donc c'est la cantine cachère.
La cantine cachère du 9-3, la seule et l'unique du 9-3, attention. Pourquoi je dis du 9-3? Parce que c'est vrai que c'est parfois des familles qui n'ont pas du tout les moyens, qui sont aidées par le Gmar concernant les vêtements, concernant les bons alimentaires, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et nous, notre force, c'est d'accueillir chaque enfant, peu importe ses moyens financiers. T'es un enfant, un juif, on prend sa ketouba. À partir du moment qu'on a sa ketouba, on est sûr qu'il fait partie de la communauté. Il a pas les moyens de manger cachère, mais c'est pas pour ça que...
Alors comment ça se passe? Comment ça fonctionne?
Comment ça se passe? En fait, on embauche du personnel, en voiture ou en car, et on tourne dans les différentes écoles de Pantin, Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Romainville. Donc tous les enfants qui sont scolarisés dans ces écoles, que ça soit des écoles laïques ou catholiques, on a monté en place un système pour aller les récupérer. Donc on a beaucoup de personnel qui va entre midi et deux, avec des horaires différentes. Oui. On va les chercher, on les amène dans notre local, on commande un repas traiteur, on leur donne à manger, on leur fait la tefila, au moins la base. Bien sûr, après, chacun est libre s'il veut faire la tefila ou pas, mais enfin, on essaye toujours de leur rendre ce moment ludique, agréable, sympathique, une petite histoire, des cadeaux, passer un moment chaleureux et essayer de les marquer et de leur faire prendre conscience, encore une fois, de leur flamme intérieure, de leur identité juive. Voilà, c'est le but de ma vie.
Alors, on est en pleine fête de Hanouka. Rivka, on parle des enfants. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez menées récemment pour les enfants, pour Hanouka, justement?
Oui, voilà, on a, avec l'aide d'Elodie, justement, elle a un centre de beauté juste à côté, le comptoir beauté, Paris 8e. Donc, 500 enfants qui ont bénéficié d'un cadeau directement livré de chez Amazon. Et l'enfant a pu choisir son cadeau via le Gmar de Pantin. Et on remercie d'ailleurs Elodie qui nous a énormément aidé pour cette opération. Donc c'est une maman sur Facebook ou sur les réseaux qui parraine un enfant. Et du coup, on a pu en faire 500. Donc imaginez 500 enfants réjouis.
C'est magnifique.
Vraiment exceptionnel.
Et vous avez une boutique de vêtements pour les personnes en difficulté, notamment les mariés qui n'ont pas les moyens d'avoir une robe de mariée.
C'est ça. Alors c'est plutôt une boutique, on va dire un vestiaire solidaire, un showroom de robes de mariée, robes de soirée, corbeille, tout ce qui est lié à la mariée. En fait, ils viennent à l'intérieur de notre showroom, qui est au Pré-Saint-Gervais, même si c'est le Gmar de Pantin. Et là-bas, ils peuvent choisir la robe de mariée de leur rêve. On a vécu des histoires incroyables.
Alors justement, est-ce qu'il y a une histoire en particulier, ça fait 13 ans, vous l'avez dit que vous faites ça, qui vous a bouleversé, qui vous a marqué?
Alors il y a énormément d'histoires, mais puisqu'on est dans les robes de mariée, alors on va en parler. Il y a une jeune fille qui était veuve de père, non pas veuve pardon, qui était orpheline de père, et elle était sa mère m'a contactée, m'a dit voilà, on est très triste puisqu'elle a essayé des robes de mariée neuves, mais elle n'a pas les moyens de se la payer, donc on va venir au Gmar de Pantin par dépit. Moi, je lui ai dit, mais vous inquiétez pas, le Gmar de Pantin, hein, peut-être c'est par dépit, mais il y a une bénédiction ici. Vous inquiétez pas, elle trouvera son bonheur, j'en suis sûre, parce que je veux tellement faire plaisir. Et voilà, je pense que ici vous trouverez son bonheur. Et elle avait essayé une robe à Démétrios. Et vraiment, c'était son coup de cœur, mais à 3000 euros la robe, impossible.
Ouais.
Et ce jour-là, c'est moi qui avais ouvert le Gmar. Et parce que je me suis dit, vraiment, j'ai envie de m'en occuper. Et quand on ouvre le Gmar, on voit une robe accrochée sur un cintre avec une housse qui sortait directement du pressing. Et j'ouvre comme ça la housse et je vois une robe de mariée magnifique et je vois la marque Démétrios. Je dis, mais attendez, regardez ce que je viens de recevoir. Il y a une Kala qui vient de nous offrir sa robe. parce que c'est que des dons, hein. Donc on voit la robe et elle me dit, mais attends, c'est la robe de mariée de mes rêves. Et en plus, elle est déjà sur mesure, elle est déjà toute snioute, puisque l'autre robe, il fallait faire des retouches, etc. On regarde la taille, 38, sa taille.
Incroyable.
Donc elle commence à l'essayer comme une folle Augmar. Et on commence à danser, la mère, la fille et moi, on pleurait, on dansait. Je lui ai dit, regarde, peut-être que ton père, il est pas présent physiquement, mais regarde, il est là, il te porte. Et puis c'est marqué en plus que sous la roupa, il y a les parents décédés qui sont présents jusqu'à 3 générations, puisque ça c'est mon domaine, cours de préparation au mariage, donc j'ai bien étudié le sujet. Donc je lui ai dit, voilà, sache que ton père il est là, il t'accompagne. Et c'était un moment incroyable.
Mais donner des frissons là, Rivka, ce matin. Alors écoutez, on n'a plus qu'une minute, peut-être pour un numéro ou un contact, si on veut rentrer en contact avec vous, justement, si une famille nécessiteuse nous écoute ce matin et veut vous contacter, comment faire?
Bah alors vous le donnez mon numéro, 07 61 41 56 48. 07 61 41 56 48. Donc ça, c'est Rivka pour donner des meubles, avoir besoin de quelque chose, un cours de Torah, préparation de mariage, cantine cachère du 9-3.
Elle fait tout, Rivka. N'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup
avec
en
plaisir.
Tout cas d'avoir été avec nous, Rivka Balouka, le Gmar de Pantin. Donc si vous êtes dans le 93 notamment, n'hésitez pas à la contacter. Et aussi, on peut être bénévole pour vous.
Bien sûr, bien sûr.
On peut vous contacter.
Bien sûr, pour aider bénévole. Même pour la cantine, pour aider à récupérer des robes de mariée, pour...
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Rivka, Raksameach, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.
Merci.
Le 6-9. Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Il est 7h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce mardi 31 décembre 2024, 452e jour de guerre en Israël, toujours sans otage à Gaza.
Direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Olivier Granilic, ce matin à la une, les tensions qui mettent en danger notamment la stabilité de la coalition de Benjamin Netanyahou.
Oui, avec le Premier ministre. Je vous rappelle que le Premier ministre repose actuellement à l'hôpital après une opération de la prostate qui a eu lieu dimanche. Des tensions éclatent au sein de sa coalition. Et Yuval Karmi, en première page du Yedioth Ahronot, nous explique que le principal conflit oppose le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Ben-Gvir affirme depuis des semaines qu'une augmentation significative du budget de son ministère lui avait été promise, mais celle-ci ne figure pas dans le projet de budget actuel et a révélé à la presse aussi un document signé par la main du secrétaire du gouvernement qui le prouve. En réaction, il menace que les membres de son parti s'opposent à la loi sur les bénéfices bloqués, un texte qui est porté par Bezalel Smotrich et qui doit être présenté aujourd'hui à la Knesset. Le Israel Hayom ajoute aussi que Ben-Gvir bloque également un projet de loi sur l'assurance nationale, une autre initiative soutenue par le ministre des Finances.
Et les partis orthodoxes menacent eux aussi de ne pas voter en faveur du budget présenté par Bezalel Smotrich.
Oui, c'est Daphna Liel de la chaîne 12 qui expliquait hier que les partis ultra-orthodoxes intensifient leur pression sur le gouvernement israélien, exigeant la présentation immédiate de la loi sur la conscription avant l'approbation du budget. Ils menacent donc de ne pas soutenir le budget si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Et pour couronner le tout, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a déclaré qu'il n'accepterait qu'une loi de construction originale, rejetant donc toute forme d'exemption généralisée. Une situation donc plutôt complexe et compliquée pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sar, a annoncé son intention, lui, de revenir au Likoud, sa maison politique d'origine.
Oui, il a reconnu avoir commis une erreur en démissionnant du gouvernement en mars dernier, en pleine guerre, en raison des divergences sur la conduite du conflit et du processus décisionnel de Benjamin Netanyahou. Et c'est Yehuda Schlesinger qui nous l'apprend ce matin dans le Israel Hayom. Gideon Sar a exprimé aussi ce regret dans un message publié hier, tout en critiquant sévèrement ses détracteurs, les accusant de mener une campagne de diffamation contre lui et sa famille. Sar a réaffirmé son engagement
engagement envers la droite politique et son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il considère comme menant une campagne historique qui transforme actuellement la région du Moyen-Orient.
Le Premier ministre a subi une opération de la prostate ce dimanche dernier, mais une question intrigue la presse israélienne. Où se trouve Sarah Netanyahou, son épouse ?
Oui, une bonne question, Ilana. La réponse se trouve dans la majorité des quotidiens ce matin. Sarah Netanyahou est actuellement à Miami avec son fils. Et si elle n'est pas rentrée auprès de son mari, c'est parce qu'elle a contracté le Covid, le Corona. Et elle ne peut pas donc voyager. Des proches de Sarah Netanyahou assurent qu'elle rejoindra son époux dès qu'elle sera rétablie.
Et puis, pour le dernier jour de 2024, on va en parler évidemment, mais il semble d'abord que les négociations pour la libération des otages sont toujours dans l'impasse.
Et c'est Yoran Abraham de la chaîne 12 qui a révélé hier que lors d'une réunion consacrée à la question des otages, le Premier ministre a affirmé qu'en cas d'accord, Israël reprendra les combats immédiatement après, tout en soulignant que cette position ne vise pas à entraver un accord, mais plutôt à l'encourager. Cependant, des acteurs impliqués dans les négociations expriment des inquiétudes. En effet, le Hamas exige toujours des garanties internationales retardant les discussions et de leur côté, les responsables de l'administration Biden évoquent des avancées, mais signalent des désaccords sur le nombre et l'identité des otages concernés par cet accord.
Pour le dernier jour de 2024, de nombreux commentateurs dressent par ailleurs un bilan de l'année écoulée, Olivier.
Et nous avons retenu celui de Yoav Limor dans le Israël Hayom qui dresse un bilan des succès et des échecs du gouvernement. Les succès d'abord avec le Hezbollah et le Hamas qui ont été affaiblis, perdant ainsi leur leader, notamment Nasrallah et Sinwar. L'Iran qui a subi des frappes stratégiques et le terrorisme en Judée-Samarie qui a reculé. La chute aussi du régime d'Assad en Syrie qui a réduit les menaces sécuritaires d'Israël. Et puis les échecs, les sans-otages qui restent bien sûr détenus dans la bande de Gaza, des milliers de déplacés qui sont sans logement et les tensions avec l'Iran qui se sont intensifiées, marquées par des tirs de missiles venant du Yémen. Pour conclure, Yoav Limor explique que l'année à venir s'annonce décisive avec l'Iran en priorité absolue, notamment sur le dossier nucléaire. Israël devra aussi gérer les tensions avec les Houthis, accélérer la reconstruction des zones touchées, une année stratégique pour la stabilité et la résilience du pays. Pour le journaliste du Israël Hayom.
Et c'est aussi l'occasion de faire des bilans économiques. La presse israélienne nous donne d'ailleurs des détails sur les dépenses des Israéliens en 2024.
Oui, tout à fait. Selon des données publiées par la presse économique ce matin, les dépenses des Israéliens dans les secteurs du divertissement, de la restauration et de l'aviation ont d'abord chuté après le 7 octobre 2023 avant de se redresser et d'augmenter progressivement. En 2024, les dépenses dans le secteur de l'aviation ont bondi de 71% par rapport à la période d'avant-guerre malgré une baisse du nombre de vols. Mais la raison principale, c'est bien entendu la hausse des prix des billets d'avion et puis par ailleurs, des données montrent une baisse du nombre de transactions par chèque, mais une augmentation du montant moyen de transactions.
Et puis enfin, pour terminer, les médias israéliens nous racontent l'histoire d'un accouchement pour le moins rapide, Olivier.
Oui, il y a une femme qui a accouché dans sa voiture juste avant d'entrer à l'hôpital Asuta Ashdod. Et c'est Ayelet Ashachar, une infirmière de soins intensifs et bénévole au Magen David Adom, qui a été alertée par la via d'une application et qui s'est rendue sur place en rien de temps. Elle a trouvé la maman et son bébé encore reliés par le cordon ombilical avec l'aide du personnel de sécurité. Ils ont pris soin donc du nouveau-né jusqu'à l'arrivée d'une équipe médicale. La maman qui habite à proximité a raconté que tout s'est passé très vite. Des contractions intenses, puis un accouchement express en seulement 7 minutes, Ilana. Juste avant d'arriver à l'hôpital, elle a tenu à remercier le personnel pour leur activité et leur soutien.
Eh bien, Mazel Tov et merci Olivier. Je vous souhaite une très belle année civile 2025 et je vous dis à l'année prochaine.
De Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme et les blessés de guerre sont la priorité du Keren Hayesod. Ensemble, aidons-les à se reconstruire.
Keren-Hayesod.fr.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Nous, Kak. qui se poursuit, évidemment. Ce soir, on allumera la 7e bougie de Hanouka. Allumage public à 19h30, place du Maréchal Juin, dans le 17e arrondissement. La dernière bougie, la 8e bougie, sera allumée demain, mercredi 1er janvier, 18h, allumage public, place de l'Opéra, dans le 9e arrondissement. Et puis, vous le savez, c'est le nouvel an. Ce soir, des transports en commun gratuits qui fonctionneront toute la nuit. Les lignes de métro 1, 2, 4, 6, 9 et 14 circuleront entre 2h15 et 5h30 avec certaines stations fermées, les RER A, B, C, D et E, ainsi que les lignes Transilien H, J, L, N, P et R desserviront toutes les gares toute la nuit. Les bus noctiliens assureront également le service habituel de minuit et demi à 5h30. Très bonne année 2025.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Bonjour, c'est Christophe Barbier. Tous les jours, je suis Jacques Offenbach au Théâtre de Poche Montparnasse pour Offenbach et les Trois Empereurs avec Pauline Courtin et Vadim Cher. Nous sommes le 7 juin 1867. Trois empereurs viennent dîner au Café Anglais et Offenbach doit leur improviser un spectacle. Mais qui sont-ils, ces empereurs? Venez le découvrir au Théâtre de Poche tous les jours à 19h, le dimanche à 15h. Offenbach et les Trois Empereurs.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J, comme tous les matins, dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier. Mais d'abord, Meryl Pénélope avec nous en studio, ravie de la retrouver. Bonjour Meryl.
Bonjour Ilana, comment allez-vous?
Ça va très bien et vous?
Oui, ça va très bien, merci. J'espère que tout le monde passe de bonnes fêtes. Moi, j'ai pu retrouver ma grand-mère.
Ah, c'est vrai.
Ouais, et vivante, hein, bien sûr.
Mais attends, vous.
Je vous remercie. Je l'aime très fort, ma grand-mère, mais elle le saura jamais puisqu'elle est sourde. Comment je sais qu'elle est sourde? Elle répond à des questions que personne ne lui pose. Un peu comme mon ex, quoi. Mais elle est gentille. Mais pas trop gentille. Oui, parce que j'aimerais qu'on parle de gentillesse un petit peu aujourd'hui. Je suis fascinée par les gens gentils. Tu sais, ceux à qui tu dis que tu as froid et qui te répondent: est-ce que tu veux mon manteau? On pense tous à ce scénario dans les films d'amour. Elle a froid, il a un manteau et ils vécurent heureux jusqu'au divorce. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que moi, je ferais ça? Je crois que si quelqu'un me dit « j'ai froid », je répondrais « bah couvre-toi, plus la prochaine fois ». Non, mais j'aime les gens gentils, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'ai toujours dit « trop gentil pour être gentil ».
Ah, ouais, intéressant.
C'est pour ça que je me méfie de vous, Ilana. Pardon, mais dans un monde où le SMIC est à 1 300 € et les loyers à 1 000 € minimum pour une cage à souris, ne me dites pas qu'on a envie d'être gentil. Garde ton manteau, car moi, j'ai rien de gentil. Si tu me le donnes, je ne compte pas te le rendu le prix de l'électricité. Alors merci à tous les gentils pour les économies. On revient quand même au fameux débat, les meufs n'aiment pas les mecs gentils. Si, on aime les mecs gentils. Si, on aime les mecs gentils, mais pas trop. Les mecs beaux, mais pas trop non plus pour pas se le faire piquer à la salle de sport. Prévenant, mais pas collant. Attentionné, mais pas lourd. Et après, vous allez dire, oui, qu'on est trop exigeante, hein, mais non, on est juste chiante. Et vous savez ce qui est chiant aussi?
Non, dites-nous.
Les résolutions chaque année que tu dois faire. Et c'est reparti pour avoir de nouvelles résolutions. À manger du raisin sous la table pour trouver l'amour. Arriver un an après avec les mêmes résolutions. Sauf qu'on remplacera le raisin par la vodka. Hein. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La mienne de résolution, maintenant que j'ai eu le mari, l'ex... mari, l'enfant et la garde alternée, hein, qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus finalement? Avoir de l'argent. Sauf que mon bailleur a l'air d'avoir les mêmes résolutions que moi en augmentant mon loyer tous les ans.
Ah d'accord. Mmh.
Ça nous amène à une autre résolution, okay. Celle de faire du sport. J'imagine qu'on l'a toute. Est-ce que vous l'avez fait, vous, Ilana?
Non, pas du tout.
C'est vraiment la seule résolution que vous faites jamais.
Sortie de mes résolutions depuis très longtemps.
Bah, moi, c'est toujours celle-là que je fais. En tout cas, je pense qu'on l'a toute faite au moins une fois, celle en prenant un abonnement chez Basic Fit en janvier. Et arrivé en décembre, le bilan tombe. La seule machine que tu as utilisée, c'est le vélo électrique en janvier, justement, que tu as pris pour aller faire ton abonnement de chez toi à la salle. Tu te retrouves avec moins 360 € et à la fin de l'année, et 30 kilos en plus. Tout ça, c'est de la faute de ma mère, qui m'a dit de croire en mes rêves, mais je pense qu'elle a oublié de me préciser de les réaliser. Par exemple, j'ai cru en mes rêves quand j'ai voulu tester l'éducation positive. Hein, vous voyez ce que c'est,
l'éducation positive.
C'est pas vraiment l'éducation Montessori parce que je sens qu'on va nous, on va nous sauter dessus. L'éducation positive, c'est quoi? C'est crier sans crier, guider ton enfant vers la bonne direction. Ma fille, par exemple, a décidé gentiment de me rendre un service et de repeindre avec un feutre indélébile le mur du salon. Trop mignonne, franchement trop mignonne. Trop mignonne de vouloir m'aider et à refaire le salon et gratuitement en plus. Donc je suis ravie. Je l'ai donc guidée vers la bonne direction, celle de chez son père à durée indéterminée. J'ai regardé d'ailleurs qui étaient les pères de l'éducation positive. C'est donc Alfred Adler, mais aussi Rudolf Dreyfus. Évidemment, qui d'autre que deux hommes pourrait inventer cette éducation? Souvent, les femmes ont tendance à considérer leur mari comme des enfants. C'est donc pour sauver leur peau, je pense, qu'Alfred et Rudolf ont inventé cette éducation. Tu sais que je les imagine bien avec leur femme, Alfred et Rudolf. Indique-moi la bonne direction du lave-vaisselle. Ne pointe pas mes erreurs. Et si je ne le fais pas, guide-moi, montre-moi comment faire la vaisselle. L'attention, l'engagement actif, la consolidation, les feedbacks des erreurs, ce sont les quatre piliers de l'éducation positive. Alors, c'est pour l'enfant ou pour le mari? Je pense qu'Alfred et Rudolf avaient des comptes à régler avec leurs femmes, pas avec leurs enfants. Alors, mesdames qui pratiquez cette technique, si ça ne marche pas avec vos enfants, essayez avec vos maris.
Eh bien, merci beaucoup, Meryl Pénélope. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voyez, il nous reste encore un petit peu de temps. Je voyais un petit peu paniquer.
On peut discuter. Alors, je peux faire ma promo si vous voulez.
Alors, allez-y.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis humoriste, peu connue malheureusement. Sachez que sur Instagram, il me manque 300 abonnés pour atteindre les 10K. 10K,
ah,
10 000.
Ouais, 10 000 abonnés. Quand même déjà.
Et je prépare mon spectacle, pour ceux que ça intéresse. Je prépare mon spectacle le 9 avril au Solo Théâtre.
D'accord.
Une heure de moi. Là, vous avez chaque matin 5 minutes. Imaginez une heure.
Très bien. Merci beaucoup. Bien, pour les fans de Meryl Pénélope, n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux. Merci. Toutes les informations seront mises, j'imagine.
Oui. Et beaucoup de photos de moi. Évidemment.
Beaucoup de photos et de vidéos, évidemment. Et de discussions avec votre fille. Merci beaucoup, Meryl Pénélope. Je vous dis à très bientôt. Très bonne année.
Merci.
2025. On se retrouve donc l'année prochaine.
Oui, à l'année prochaine.
Et tout de suite, invité de Christophe Bordier.
Les grands débats commencent sur Radio G.
Rime Corsia.
Bonjour.
Nous nous retrouvons cette fois pour parler d'abord de votre dernier livre, Ma vie avec Edmond Fleg. C'est chez Gallimard. Ma vie avec n'est pas usurpé comme titre parce que c'est plus qu'un sujet d'intérêt pour vous, Edmond Fleg. C'est une sorte de parallèle dans le siècle passé. C'est une sorte de compagnon de route, d'inspirateur, de mentor, de double.
C'est quelqu'un qui a parfaitement anticipé et compris ce que moi j'ai voulu faire. Et quand vous vous reconnaissez dans l'action de quelqu'un, vous trouvez assez étonné. Et moi, j'avais jusqu'à longtemps reconnu ça chez le grand Kaplan, qui était, disons, le chantre du franco-judaïsme. Mais au fond, Kaplan étant rabbin, c'était un peu normal. Et puis j'ai retrouvé ça aussi chez mon maître, le grand Machouchna. Mais c'est chez Fleg que j'ai trouvé à la fois cet absolu dévouement à la patrie. Vous voyez, il va s'engager dans la Légion étrangère, alors qu'il est suisse.
Ouais. Il va vouloir aller au front, alors qu'il n'en a plus l'âge.
Absolument.
Et il fait une vraie guerre.
Voilà. Il va absolument, ce que j'ai fait à ma façon, à ma modeste façon. J'ai pas fait de guerre. Mais j'étais, moi, d'une époque où, pour se faire la forme, c'était pas très compliqué. Et j'ai voulu absolument faire l'armée dans l'armée.
Être sous les drapeaux,
ouais,
ça a un sens.
Dans l'armée et dans l'armée de l'air. Et j'ai eu ce que je voulais. Et donc, il y a une sorte de... comme d'écho de ce qu'il a vécu dans son moteur personnel, qui me touche, qui me fait bouger quelque chose en moi aussi. Et puis, il y a eu beaucoup de hasard. Sa mort... très proche de ma naissance, à 18 jours près. Cette façon de redécouvrir comme Avraham la présence de Dieu, alors c'était pas son monde du tout. Il est d'abord quasiment Action française, il abonnait à l'Action française à un moment. Jusqu'à la naissance de son fils.
Il est très proche aussi de Lucien Moreau,
ouais.
Amitié normalienne, quelqu'un qui est
qui n'abandonnera jamais. Qui n'abandonnera jamais.
Malgré le fossé idéologique.
Ouais. Oui, mais...
Arès, l'Action française, Maurras, etc.
Oui, avec la capacité de discuter, pas avec les mêmes que lui. Et moi, je me suis toujours refusé de m'enfermer dans les mêmes que moi. D'abord parce que c'est dur à trouver, quand même, faut dire ce qu'il est. Mais parce que, comme l'aurait dit Apollinaire, chaque fois que quelqu'un qui n'est pas moi-même vient à moi, c'est une part de moi-même qui l'amène à moi.
Alors, dans cet engagement très particulier d'Edmond Fleck, vous le disiez, il y a la patrie et la religion, la France et le judaïsme.
Vous avez remarqué que vous venez de dire, pardon, vous venez de citer inconsciemment, mais avec vous on ne sait jamais si c'est conscient ou pas, la devise du consistoire, religion et patrie. Donc vous voyez bien, vous le percevez, que dans l'engagement de Fleck, il y a deux choses, la patrie et la religion. Et moi je suis grand main de France, c'est-à-dire au service d'une institution qui s'appelle le Consistoire Central, dont la devise est depuis Napoléon, religion et patrie. Vous comprenez ?
C'est une devise contraignante, parce qu'elle a été imposée par le pouvoir politique, par Napoléon.
Rien n'est imposé. Rien n'est imposé. C'est le consistoire, c'est-à-dire l'assemblée des sages réunis par Napoléon, le Grand Sanhédrin, qui se forme et qui décide de faire du consistoire à la fois l'outil de la francisation de la communauté juive de ce qu'était la France. N'oublions pas que l'école rabbinique quitte Metz en 1859. Elle était à Metz. Elle quitte Metz en 1859 pour venir s'installer à Paris pour contribuer à enseigner aux rabbins le français et à parler surtout le français et non plus des langues locales. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que de la même façon que l'Alliance israélite universelle va essaimer sur tout le bassin méditerranéen pour franciser des populations juives, et je dirais presque de donner une citoyenneté littéraire française à tous les juifs du bassin méditerranéen, parce que les juifs de Damas, de Turquie, du Liban, de partout, vous voulez, du Maroc plus tard, vont rêver, penser, étudier en français avant même d'être liés structurellement ou par les passeports à la France. Et donc il y a ça, et puis il y a cet attachement à la religion qui est une religion d'ouverture, en fait une religion universelle. Mais je crois qu'on retrouve cette aspiration dans la vocation du consistoire.
Ce n'est pas en étant moins juif que l'on sera plus français, mais bien en étant pleinement juif, ou catholique, protestant, musulman, bouddhiste, orthodoxe, ou athée, que l'on peut être mieux français. Écrivez-vous.
Oui. Vous savez, Manuel Valls a dit le 10 janvier 2015, devant l'hypercacher, la France sans les juifs ne serait plus la France. Et moi, j'ai traduit ça. En fait, il disait, la France sans la diversité que nous retrouvons partout, la France sans les juifs, sans les catholiques, sans les protestants, sans les musulmans, sans les athées, ne serait plus la France. Et donc, si nous n'apportons pas ce que nous sommes, notre écho intellectuel et spirituel même, à la société, on spolie la France de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons lui apporter. Donc il faut que nous soyons ce que nous sommes pour pouvoir être totalement et parfaitement français.
Si l'on va au bout et que l'on dit, comme Bernard Lazare que vous citez, le judaïsme est une nation, on trahit ce que vous venez de dire, non, ou on l'accomplit, on l'achève?
Bon, Bernard Lazare ne peut jamais trahir la République. Lui qui a été l'un des rares, voire les premiers, à la défendre dans l'affaire Dreyfus. N'oublions jamais, Bernard Lazare est l'un des premiers à avoir défendu Dreyfus. Au moment où c'était pas la mode, le moins qu'on puisse dire. Mais parce que, comme une nation, mais pas au sens de Renan, de sa conférence de 82, c'est-à-dire une nation-État, nation-peuple, une nation comme une sorte d'affinité que Weber appellerait élective, d'aspiration spirituelle qui dépasse les frontières nationales, les frontières des États. Et de ce point de vue-là, oui, j'ai des liens avec un juif d'Ouzbékistan, mais je vous assure que j'ai plus de liens culturels avec un français catholique, avec qui je partagerai, par exemple, la littérature, etc., qu'avec un juif d'Ouzbékistan qui ne saurait pas qui est Jean Valjean et qui se demanderait qui est Jules Verne et surtout Henri Verne, l'auteur de Bob Moran, le héros de ma jeunesse.
Bien sûr. Donc schizophrénie.
Non,
quand même.
Non, donc universalisme. Ne jamais se fermer à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Universalisme. C'est le judaïsme.
Parlez-nous des fous de la République. C'est une expression qui voit dans la devise liberté, égalité et fraternité l'écho de la révélation du Sinaï.
C'est une expression de Pierre Birnbaum qui a écrit un livre, le livre éponyme, qui est une merveille, et qui voit dans les juifs les véritables, les premiers, les plus engagés des défenseurs de la République. Parce que, en fonction des moments de notre histoire, telle ou telle religion a pu défendre la République, les protestants vous disent, c'est nous qui avons porté, défendu la République, c'est nous qui avons sauvé la laïcité. Ok, c'est possible. Mais les Juifs ont toujours compris que dans le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, il y avait la rencontre absolue avec la vocation du judaïsme. Et donc, ils ont défendu la République parce qu'elle était la Jérusalem moderne. Relisez, par exemple, ce qu'a bien connu Flegg. Relisez les discours des rabbins pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas compliqué. Les Allemands, enfin, on disait les Boches à l'époque, c'est la Babylone orgueilleuse. Et la France, c'est la Jérusalem céleste. Voilà. Donc, à la fin, c'est la France, c'est-à-dire Jérusalem, qui l'emporte contre Babylone. C'est pas compliqué, c'est marqué dans les prophètes. Mais vraiment, une sorte de superposition.
Jusqu'à mettre une guerre de religion dans une guerre politique.
Mais pratiquement, pratiquement. Je vous rassure, les rabbins allemands en avaient autant au service de l'Allemagne et du Kaiser et à notre rencontre. Donc ça, c'est assez rigolo. Je vous engage à lire un livre incroyable d'un ancien ambassadeur d'Israël en France qui s'appelle Palmer, je crois. Celui qui s'appelle « Comme il est beau et tout ». De mourir pour son pays. C'est l'histoire de deux soldats juifs qui combattent pendant la Première Guerre mondiale, l'un du côté de la France, l'autre du côté allemand, soumis au même antisémitisme de chaque côté, soumis à l'amour d'une jeune fille de chaque côté, et avec une histoire qui fait qu'à un moment ou un autre, ils vont peut-être se retrouver, ça je vous déflore pas le livre. Mais ce livre est bouleversant parce que des deux côtés, il y a le même amour absolu pour sa patrie. Ce qui malheureusement ne pourrait pas être le cas dans la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'Allemagne nazie n'a plus de soldats juifs. Elle en a plus, elle en a tellement peu qu'elle refuse d'inscrire les soldats juifs morts au service de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale sur les monuments aux morts qui sont faits après le 33. Et moi, j'ai vécu, il y a quelques années, lorsque j'étais rabbin à Reims, une expérience hors norme d'une cérémonie, d'ailleurs sous une pluie diluvienne, à Sissonne, dans l'Aisne, qui était un cimetière militaire allemand, vous savez, le VDK, l'organisme qui entretient les tombes des soldats allemands à l'étranger, le VDK, c'est des grands espaces verts, la pelouse, avec des croix noires. Nous avons les croix blanches, cher Maurice Genevoix, les Allemands sont des croix noires. Et sur le monument central, il y avait tous les noms de tous les camarades morts, sauf un, celui qui était juif, parce que le monument avait été finalisé après 33. Et l'Allemagne nazie avait décidé de ne pas mettre le nom d'un juif quand même sur le monument aux morts.
Et là, vous l'avez ajouté.
On l'a rajouté. 80 ans après.
Ces fous de la République, ils s'enracinent aussi dans le fameux acte d'émancipation du 27 septembre 1791. Mmh. Les juifs deviennent pleinement citoyens. Tout comme citoyens, rien comme nation.
Oui.
C'est fondateur, cela aussi. Oui. Plus encore que Napoléon.
C'est le Napoléon.
Il structure.
Oui, il structure, il organise. J'allais dire, il met les décrets d'application du souffle de 1791. 1791, sans Napoléon derrière, ça reste une belle idée, une grande idée, qu'on n'arrive pas encore à incarner. Napoléon met du concret. Il voit que ça n'a pas changé, il décide qu'il faut mettre le haut là, et il prend les choses en main, et il fait, à la Napoléon. Et c'est ce qui manque souvent en France. On connaît, vous et moi, des lois qui sont...
Formidables, mais pas plus.
Formidables, magnifiques, votées, applaudies. Mais après le décret d'application, il sort 10 ans après, quand il sort, et la loi est déjà périmée. Donc, mais là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que le 27 septembre 1791, donc l'acte d'émancipation des Juifs de France, le premier pays au monde qui le fait à cette échelle, pour moi est important. Il se trouve, ça c'est accident de l'histoire, que je suis né aussi un 27 septembre, pas 1791, mais un peu plus tard. Mais ça m'a toujours marqué. Et j'étais d'ailleurs très touché que le président du CRIF nous demande au président du consistoire, Maître Élie Corchet et moi, d'organiser tous les ans quelque chose, un événement autour du 27 septembre, non pas pour célébrer mon anniversaire, mais plutôt pour célébrer ce moment de l'émancipation des Juifs. Et c'est important d'inscrire aussi cette date dans notre calendrier collectif. Oui.
Raïm Corsia, merci beaucoup et bonne journée.
Radio J. Retrouvez le Barbier du Matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
14h-15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar.
Je vous donne rendez-vous tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure d'information et de décryptage en direct sur les sujets qui vous concernent. Le Grand Journal, 14h-15h. Et c'est seulement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy ?
Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité.
Ceux qui n'ont rien ?
Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka.
On peut aider aussi ?
Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un.
Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris.
Bonjour à tous, ici Annabelle Nakache, alias Annabelle Chou. Vous avez l'habitude de m'entendre sur Radio J. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve pour de vrai pour terminer 2024 en beauté à la scène parisienne à 19h le 31 décembre avec mon spectacle Amour, Action ou Vérité. Une comédie palpitante que j'ai écrite et que je joue avec Rudy Mayout pour ne jamais oublier que l'amour est un jeu dangereux. Seriez-vous toujours en couple si vous étiez obligé de dire toujours la vérité? Et vous, êtes-vous prêt à jouer? Alors à vos rires, prêt, feu, réservé, 19h le 31 décembre, la scène parisienne.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio G.
C'est uniquement sur Radio G.